présente Michel Magam, qui est responsable du centre Rameau de la GNF, donc qui va donc nous décrypter cette fameuse liste d'autorités, ce répertoire d'autorités bancaires encyclopédiques dans un public unifié, qui fait à la fois grand intérêt dans les catalogues et qui est largement ignoré par les étudiants. Les usagers. Merci. Merci.
Donc je n'ai pas de PowerPoint. Simplement, tout à l'heure, je montrerai un ou deux écrans de la BNF. Alors, j'espère, mon propos va être un peu technique, puisque les langages documentaires, c'est une matière un peu ingrate. Donc, je m'en excuse auprès de ceux pour qui Rameau évoquerait plutôt l'auteur des années d'avance, qui est un langage documentaire. Ce sera également limité, c'est-à-dire je vais vraiment parler de Rameau tel qu'il fonctionne, d'où il vient et tel qu'il fonctionne aujourd'hui, sans prendre trop de recul sur le devenir des langages documentaires dans le contexte actuel, l'évolution rapide avec le web, les recherches de type Google, le web sémantique, etc. Et troisièmement, ça va peut-être un peu décalé par rapport aux usages de bibliothèques, parce que là je vais parler surtout donc, de la production du langage. En amont, donc, après, évidemment, les bibliothèques s'en servant, essayant de s'en servir, tant qu'il est possible. Donc, je vais auparavant faire un petit détour historique, parce que je crois que l'histoire de ce langage, l'histoire de Rameau, explique beaucoup de choses et pèse encore énormément sur la situation présente. Après, dans un deuxième temps, je vais voir ce qu'on peut faire aujourd'hui, ce qu'on peut faire, au moins. Je terminerai en conclusion sur les relations entre le langage et la technique, si je puis dire, et les logiciels, parce que c'est un vrai problème. Donc, en fait, je remonte assez loin, c'est à la fin du 19e siècle que les bibliothèques, notamment universitaires et nationales, ont commencé à créer des fichiers matières à côté de leur fichier, du catalogue alphabétique auteur, qui est maintenant des catalogues sur fiche, à l'époque, un tiroir, un fiche. Elles ont créé des catalogues alphabétiques matières qui permettaient de retrouver les documents en fonction du sujet dont ils traitent. D'ailleurs, à l'époque, par parenthèse, la bibliothèque de la Sorbonne avait fait une étude de l'impact, déjà, avant la guerre 14, et avait constaté que les documents sortaient beaucoup plus de la part des étudiants et des enseignants depuis qu'ils avaient fait ce fichier matière, donc à la fin du 19e. Donc ça servait quand même à quelque chose. Donc pendant des années, les bibliothèques ont créé ces catalogues sur fiche en s'aidant de quelques règles simples. Tout ça, d'une part, le choix des vedettes, le choix des... Quand on dit vedettes, c'est descripteur et des bibliothèques. Et également l'agencement des vedettes sous forme à l'aide d'une syntaxe. Hein. Si on avait un document sur, mettons, tremblement de terre au Japon du 19e siècle, on faisait tremblement de terre, virgule, Japon, virgule du 19e siècle, dans un ordre donné, pour que, lorsqu'on feuillette les fichiers, cet ordre permette de s'y retrouver. Donc, une syntaxe. En revanche, elles étaient parfaitement libres de choisir les termes qu'elles souhaitaient. Si une bibliothèque voulait utiliser, mettons, séisme pour le même document et une autre tremblement de terre, elles avaient parfaitement le droit, à partir du moment où elles étaient conséquentes avec elles-mêmes. Et leur catalogue restait cohérent. Cette liberté, si je puis dire, encadrée par quelques règles simples, ne posait pas de problème tant que les bibliothèques fonctionnaient de manière isolée, les unes des autres. Tout a changé dans les années 80, 70-80, quand a été envisagée l'informatisation des catalogues des bibliothèques, et donc la possibilité de créer des catalogues collectifs, de mettre en commun les ressources des bibliothèques, d'échanger des données, etc. Ce qui supposait une exigence accrue de normalisation, c'est-à-dire les bibliothèques devraient désormais s'astreindre non seulement à suivre les mêmes règles, mais à choisir les mêmes termes pour signaler les mêmes contenus dans des réservoirs, disons, terminologiques, des référentiels terminologiques communs. C'est dans ce contexte qu'est né donc Rameau, en 1980 à la BNF, puis en 83 et dans les bibliothèques universitaires via le ministère de l'Éducation, je ne sais pas quelles sont. Donc, à ce moment-là, donc, plutôt que de créer ex nihilo, un tel référentiel commun, les décideurs de l'époque vous préférez, sans doute pour des raisons d'économie, de gain de temps, utiliser un référentiel qui existe déjà, qui était donc le répertoire de vos aides matières Laval, qui était francophone, le travail avait été fait, pourquoi le recommencer? Ce référentiel Laval était lui-même, vous savez, une adaptation, traduction du référentiel de la bibliothèque du Congrès, Library Congress of the Living, donc le RCFH, en abrégé. Donc on avait au départ un répertoire américain qui avait été traduit, adapté par les Canadiens, qui était lui-même traduit, adapté par les Français. Alors, ce qui semblait effectivement une bonne opération au départ, et on ne sait pas ce que ça aurait donné s'il avait fallu créer ex nihilo un langage à l'époque. Mais ça s'est quand même révélé problématique au moins à deux titres. D'une part, l'origine anglo-saxonne du répertoire, qui s'est encore largement senti à Morando, tenait au fait que c'était un langage qui avait été créé dans un contexte culturel donné, en fonction, disons, de besoins donnés, et d'une logique aussi de langage différente. L'SSH utilise beaucoup les possibilités de la langue anglaise, antiposition de l'adjectif qualificatif, etc. Notamment aussi, d'un point de vue conceptuel, une forte empreinte culturelle. Donc, il n'y a pas, par exemple, la vedette préhistoire, préhistorie n'existe pas dans l'SSH. C'est renvoyé à peuple préhistorique, prehistoric people. Ce qui paraît assez étonnant pour nous, la préhistoire, c'est une discipline qui n'est même pas référencée comme telle dans le. Elle n'est pas non plus dans la durée, curieusement. Donc, une empreinte culturelle. Les Québécois eux-mêmes, et c'est normal, ont traduit les SSH en fonction du français parlé au Québec. Donc, il y a beaucoup, pas mal de canadianisme. Beaucoup ont été réduits, il en reste. Dans Rameau, qui viennent d'usages québécois, qui sont tout à fait légitimes, puisque ça s'adressait à un public québécois. Il va de soi que les Français, on a un autre usage de la langue, surtout de merci, mais sur certains points. Et donc, il y a eu un problème d'adaptation assez lourd à faire de la langue. Il semblait, alors qu'on pensait prendre un outil qui était pratiquement prêt à l'emploi, on s'est aperçu qu'il fallait faire un travail d'adaptation et qui n'est pas terminé, quoi. 25 ans. Quoi. Deuxième problème, c'est que c'était, peut-être que les gens à l'époque ont pensé, on prend un système américain qui vient d'inviter du Congrès, ça va être la pointe de la technique. En réalité, pas du tout, puisque les SSH ont été créés à la fin du 19e siècle pour le catalogue sur fiche de la bibliothèque du Congrès. Donc c'est un langage qui a été créé donc, avec selon une syntaxe pré-coordonnée, comme je disais tout à l'heure, parlementaire japonais du 19e siècle. Ça a été transposé ensuite sur l'outil informatique et la logique du langage a été conservée. Donc on a un langage documentaire pré-coordonné qui est plus adapté a priori à des catalogues sur fiche qu'à l'outil informatique. On pourrait penser que la recherche post-coordonnée, donc qui combine les termes au moment de l'interrogation, est plus adaptée. Là aussi, il y a eu tout un travail de fait sur la simplification autant qu'il était possible de cette syntaxe qui était compliquée en plus, circonstance aggravante, c'est que les SSH étaient aussi. À l'origine, ce n'était pas du tout un outil conçu pour être utilisé collectivement par les bibliothèques, mais c'était un outil conçu pour le catalogue d'une bibliothèque donnée, la bibliothèque du Congrès, et il reflétait beaucoup d'usages, en plus depuis le 19e siècle, vous imaginez, d'usages, de parti pris, qui pouvaient se justifier des fois pas, mais qui sont devenus les règles du langage. Alors que c'était la sanction d'usage hors du temps. Ça, c'est un problème qui fait qu'on n'a pas seulement un langage pré-coordonné, ce qui n'est pas négatif, on va voir, mais qui est surtout un langage pré-coordonné compliqué. Ça, c'est un vrai problème. Donc, quand même, deux gros problèmes que traîne Rameau depuis, souvent très critiqués, à juste titre, l'origine anglo-saxonne et la pré-coordination. ça pour empêcher, par la force des choses et par un peu un effet de neige, de devenir donc le langage d'indexation utilisé aujourd'hui par la majorité des bibliothèques françaises. Enfin, les bibliothèques nationales, les bibliothèques, beaucoup, la plupart des bibliothèques publiques, d'autant plus que maintenant elles peuvent récupérer les indexations des bibliothèques nationales qui elles-mêmes sont en rameau, donc sont en rameau, évidemment la totalité des bibliothèques universitaires. Donc c'est une réalité incontournable. Toute une infrastructure a été mise en place parallèlement, je vais le passer rapidement, vous la connaissez, évidemment, pour information. Le réseau national des utilisateurs, donc de toutes ces bibliothèques, est régi aujourd'hui donc, par une organisation, il y a une convention interministérielle, il y a des instances représentant les ministères, les tutelles et les utilisateurs. Il y a une infrastructure technique qui a été mise en place aussi au fil du temps, notamment donc un site web Rameau que vous connaissez, ou si vous ne connaissez pas, qui est abrité donc, par le site web de Mons, qui va changer d'habillage à la fin du mois, donc ça ne va pas être bouleversé, mais il va changer un peu. Donc un site web. Ce site web abrite en lui-même un fichier national de propositions qui permet aux bibliothèques donc de faire des propositions de création de nouvelles vedettes ou de modification de vedettes en ligne, car c'est le rameau, donc c'est un langage qui se développe au fur et à mesure des besoins d'indexation. Donc il y a un fichier ici. Là, par exemple, les vedettes qui sont en cours actuellement acceptées. Alors ça, c'est des demandes, donc, vous voyez, qui sont acceptées actuellement et qui est mise. Donc, avec une de bibliothèques, vous voyez, il y a pas mal de bibliothèques universitaires. D'ailleurs, il y a eu des demandes il n'y a pas longtemps de Paris. Donc, toute une infrastructure, quand même, prolongée par des coopérations internationales. Rameau a été adapté en polonais par Denis Kaba. Actuellement, il est en cours d'adaptation par les Roumains. Les Slovènes sont intéressés. On a des relations étroites, évidemment, avec Laval. On a des relations. Ceci pour dire que ça a pris une ampleur importante. Donc voilà la situation présente. On a un langage qui pose des problèmes et qui, en même temps, est une réalité incontournable. Il me semble difficile de jeter, quoi, parce qu'il était question. Bon. Partant de cette constatation, donc, le Centre national Rameau, avec l'accord du réseau et du CQTEL et de la BNF, a donc un programme de travail à moyen terme, ce que je voudrais maintenant vous exposer rapidement, pour, disons, prendre acte du fait que Rameau a des lourdeurs, c'est vrai, mais il a aussi des potentialités énormes, et que ces potentialités-là, c'est là qu'il faut travailler au maximum. Alors, pour aller vite, disons que de par son histoire, de par son organisation, Rameau est un langage complexe et riche qui présente trois niveaux. C'est un langage contrôlé, c'est-à-dire comme tout langage documentaire, vous pouvez y revenir, c'est-à-dire qu'il y a notamment les termes, les formes retenues, les formes rejetées, pour permettre la recherche par mot. Par mot, normalement, je tape une requête, je dois normalement arriver à la bonne réponse. C'est un langage également hiérarchisé. Je vais y revenir aussi, c'est-à-dire que les vedettes sont elles-mêmes reliées, la plupart, par des liens hiérarchiques, un peu comme un gigantesque thésaurus, liens hiérarchiques, génériques, spécifiques, associatifs, qui permettent de naviguer dans le langage. On verra, Eva tout à l'heure va faire une démonstration, les possibilités que ça ouvre pour des catalogues, pour tout le monde, bibliothèque. Pour naviguer, c'est aussi, vous disiez tout à l'heure, trouver des fois. Trouver ce qu'on ne cherchait pas ou qu'on ne savait pas qu'on cherchait. C'est le propre de la découverte. Et enfin, donc, il y a un niveau pré-coordonnées, je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que les vedettes peuvent être agencées sur une syntaxe, ce qui permet des feuilletages d'index. Ça a aussi un avantage qu'on va voir lequel. Le problème donc jusqu'à présent, c'est que quand même, comme la syntaxe est extrêmement complexe, que c'est l'objet de beaucoup de critiques, évidemment, la réflexion et l'énergie a eu tendance à se focaliser sur ce problème. Comment modifier les règles, comment simplifier, comment. Donc, là, l'idée, c'est plutôt de dire qu'il faut que l'art de la syntaxe cesse de cacher, si je puis dire, la forêt de la terminologie, la forêt du vocabulaire. Parce que derrière cette syntaxe, il y a 150 000 termes, dont 90 000 noms communs. Il y a une richesse terminologique énorme, contrôlée, hiérarchisée, et qui doit être améliorée parce qu'elle n'est pas satisfaisante du tout, entre autres, de par ses origines, etc. Et donc, mettre l'accent sur cette dimension-là et laisser la syntaxe un peu de côté pour l'instant. Donc, travailler sur le niveau, donc, plus concrètement, travailler sur le niveau de langage contrôlé. Finalement, pourquoi il y a des langages documentaires et à mon avis, pourquoi peut-être survivront-ils, toutes ces limitations actuelles, c'est que la langue est ambiguë. La langue est ambiguë, c'est sans doute ce qui nous permet de penser, mais ça pose des problèmes pour la recherche documentaire parce que la langue est ambiguë, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs façons souvent de dire une même chose, donc plusieurs façons de poser une question, et un mot peut avoir plusieurs sens souvent. D'où l'intérêt de réduire l'homonymie du langage, arriver à des mots univoques pour éviter le bruit, parce que autrement, évidemment, vous tapez vol, vous intéressez au vol dans le produit pénal, puis vous pouvez avoir des tas de documents sur le vol des oiseaux, le vol aéronautique, etc. Donc, nécessité de réduire cette homonymie. Et il y a le problème de la synonymie, c'est-à-dire si toutes les façons d'exprimer une notion, toutes, dans l'idéal, toutes les qui sont potentiellement possibles dans une langue ne pointent pas toutes vers la même vedette, une partie de l'information ne sera pas trouvée. Si je tape tiers-monde, et il y aura peut-être des documents qui sont sur pays en développement, pays sous-développés, etc. Donc il faut constituer un langage contrôlé, c'est-à-dire essentiellement un langage dont les vedettes sont univoques et qui ont ce que j'appelle une grappe terminologique, c'est-à-dire qu'il y a la vedette et les termes exclus. Les termes exclus, c'est aussi important que la vedette. Aussi important que la vedette. Et ça pose des problèmes pour beaucoup d'opaques qui ne gèrent pas les termes exclus. Un langage documentaire sans termes exclus, ça a beaucoup d'intérêt. Donc, c'est-à-dire que normalement, l'utilisateur, il tape sa requête si elle est à peu près raisonnable, il doit y arriver. Il n'y a pas à se dire, alors, comment ils ont pu exprimer ça? Est-ce qu'ils ont choisi tiers-monde? Est-ce qu'ils ont choisi pays développé, pays en développement, pays sous-développé? Ben non, tous ces accès-là doivent être pris en compte. Donc, l'objectif, là, c'est de développer ce que j'appelle les grappes terminologiques, c'est-à-dire les termes exclus. Et parallèlement, c'est de développer, c'est pas de développer, si c'est de développer, parce que c'est pas pour généraliser, les liens entre vedettes et les rendre rigoureux, parce que là, c'est un peu des fois du bricolage. C'est-à-dire les liens génériques, spécifiques, associatifs. C'est pas facile du tout. Pour donner des règles, de telle manière que la navigation dans le langage après soit à peu près rigoureuse. Ce sera toujours, jamais parfait, mais on peut améliorer grandement les choses. L'objectif, c'est donc d'arriver à un langage, c'est-à-dire à développer cet aspect de rameau qui est à la fois contrôlé et hiérarchisé, qui fonctionne un peu comme, on va dire, la manière d'ontologie, c'est-à-dire de grappes terminologiques qui sont reliées en réseau conceptuel dans lequel on peut naviguer. Évidemment, il ne s'agit pas d'arriver de parvenir à une langue idéale qui serait le reflet illusoire d'un ordre des choses. Il s'agit plutôt de faire un système de points d'accès à l'information. C'est plutôt du côté de Saussure que de fabricant de langage idéaux. Donc, l'idée, c'est de mettre aujourd'hui le paquet sur la terminologie et la sémantique, c'est-à-dire sur le langage, la dimension de langage contrôlé et de langage hiérarchisé. La sémantique, la syntaxe, donc, les règles de syntaxe, si complexes, Bon, de toute façon, on s'en accommode. Ça accommode parce que de toute façon, aujourd'hui, modifier les règles de syntaxe, c'est souvent reprendre des indexations dans les catalogues, sauf à introduire des incohérences. Et je pense que tout le monde a autre chose à faire que de réindexer en fonction des nouvelles règles les ouvrages qui ont été indexés depuis l'origine. Mais ça ne veut pas dire qu'on abandonne la syntaxe, parce que je pense que la syntaxe a également un intérêt, dès lors qu'elle peut être exploitée dans les catalogues, notamment pour des gros réservoirs, comme par exemple le catalogue de la DNS, le sudo. C'est que ça permet un affichage des réponses sous forme d'un index, qui est une sorte de tri, qui forme un tri des réponses. C'est-à-dire, par exemple, si vous tapez psychanalyse, au lieu d'avoir tous les livres sur la psychanalyse en désordre, vous avez un index et vous dites psychanalyse, je ne sais pas, en général, psychanalyse dictionnaire, psychanalyse histoire, psychanalyse science. C'est déjà un pré-tri qui permet de s'orienter dans la recherche, plutôt que d'avoir disons que ça limite le groupe. Voilà, donc, il n'y a pas de raison de renoncer à la syntaxe, mais de toute façon, c'est quasiment impossible en l'état. Donc voilà un peu le projet que nous avons, un projet sur un certain temps, parce que c'est un travail un peu bénédictin, mais je crois vraiment qu'on peut arriver à améliorer les choses en faisant un travail donc, de révision systématique du vocabulaire, au moins pour le nom commun, domaine par domaine, parce que si on veut étudier la cohérence, il faut prendre les objets domaine par domaine, pas coup par coup, en fonction des demandes, et prendre les revoir. Et je terminerai là-dessus, j'ai la conviction, alors peut-être que je me trompe, peut-être que les progrès techniques, moi je n'ai pas la culture suffisante, mais j'ai l'impression que ce travail, j'en ai discuté avec un informaticien d'Islam, qui semblait assez d'accord, mais je ne sais pas, il y a peut-être d'autres informaticiens qui ne seraient pas d'accord, c'est l'idée que les systèmes techniques modernes, les plus avancés, n'épargnent pas un travail préalable humain, c'est-à-dire il faut préparer les données, et plus les données sont bonnes, plus elles sont exploitables, plus les systèmes après peuvent les exploiter. Il y a un travail préalable, faire des grappes terminologiques, trouver tous les synonymes, parce que des fois les synonymes ça peut être, il y a des noms de peuples, je pense, des peuples aborigènes australiques, qui ont au moins 35 variantes, peut-être qu'elles ne sont pas toutes là. Google notamment sert des fois pour regarder s'il y a des façons de dire la même chose pour essayer de trouver le maximum de variantes. Et ce travail-là, est-ce que la machine peut le faire? Si elle peut le faire, dans ce cas-là, on changera de travail. Mais pour l'instant, il semble que, de même que les liens intellectuels entre notions, hiérarchiques, spécifiques, par discipline, il y a un travail intellectuel préalable. Et si ce travail est fait, et si le résultat est bon, alors les systèmes d'exploitation, les catalogues, peuvent rendre un meilleur service aux utilisateurs. Mais inversement, ce travail, et je termine là-dessus, ce travail d'amélioration d'un point de vue intellectuel des données n'a pas beaucoup de sens si on n'a pas, après, des outils pour les exploiter. Alors, des fois, on reproche à Rameau de tas de choses qui tiennent au fait, et c'est un vrai problème, hein, je ne jette pas la pierre aux bibliothèques, je travaille dans des. Je suis amené à la DNS. C'est un vrai problème quand on a des fois des. On reproche à Rameau des. Le langage, de ne pas trouver une bonne réponse, etc. Parce qu'on a des logiciels qui n'exploitent pas toutes les possibilités. Je reviens à l'exemple. Un logiciel qui ne gère que les vedettes, les termes retenus de Rameau sans gérer les termes exclus, encore une fois, ça perd beaucoup d'intérêt. Oui, voilà. Et donc là, par exemple, je vois, non, mais je sais qu'avant le problème d'abscisse, j'ai travaillé à Paris, je vais dire. C'est un des problèmes. Alors là, effectivement, la bibliothèque essaie de contourner ce problème en faisant un lien apparemment à la liste d'autorité Rameau nationale. Mais la liste d'autorité Rameau nationale n'est pas a priori destinée au lecteur, elle est destinée au confessionnel, et normalement, les notices correspondant au catalogue de Paris devraient être récupérées dans le catalogue de Paris. Et là, oui, on aurait, techniquement, ça pose des problèmes, mais c'est quand même un problème là, qui tient pas à Rameau, mais qui tient à l'exploitation technique de Rameau. Et je ne comprends pas que les fabricants de logiciels, puisque maintenant c'est pratiquement une position de monopole, pourquoi ils ne proposent pas des choses qui soient le plus exploitables possible, puisque finalement là, c'est un marché quand même très large. Je sais pas, il y a les 4 bibliothèques qui utilisent Rameau, d'accord. Et justement, c'est tout l'intérêt de ce que vous montrez dans les voies, c'est donc à quel point la technique peut venir en appui. Enfin, elle peut exploiter les possibilités du système, mais en retour, elle oblige le système, c'est-à-dire le langage Rameau, à être plus rigoureux. Il dit, bon, pour que je puisse exploiter vos liens, la navigation dans le langage, il faut que les liens ils soient de bonne qualité, parce que c'est immense si c'est n'importe quoi. Donc, voilà, je voulais terminer sur cette idée de complémentarité entre le travail intellectuel à la source, disons humain, et après l'exploitation par les machines. Voilà, merci.
Merci.
Des questions peut-être ? Alors, moi, j'en aurais une, puisque bon, évidemment, c'est une chose qui est très intéressante, genre un mot, et puis on l'a directement intégré dans le dispositif que j'ai présenté ce matin, mais à travers votre explication et de l'histoire de ce répertoire, donc on vous dit son mieux, il n'y a pas confirmé tout à l'heure, donc ça semble être directement tourné vers des professionnels. Donc est-ce qu'à ce jour, moi, sachant qu'on le voit bien dans M6 ou dans sa forme de catalogue, c'est introduit pour le lecteur, semble-t-il ? Est-ce qu'à votre connaissance, il y a des études ou des choses qui ont été faites sur la façon dont les usagers... Alors, dans cette démarche de... Il semblerait que qui peut le plus, peut le moins. Est-ce que parfois, on ne devrait peut-être pas enlever un certain nombre d'options dans les catalogues, en l'occurrence sur les matières Rameau, puisque, bon, je pense que chacun d'entre nous qui va finalement a pu l'observer, de manière... Bon, c'est décrit, hein, c'est un sujet, évidemment, et la plupart des étudiants prennent ça pour leur sujet de recherche. Donc il y a constamment, en fait, il y a aussi constamment, en fait, à la fois cette appropriation qui est faite par l'usager, mais qui est totalement détournée de la... Donc alors, est-ce que, sachant qu'on ne fait pas l'essentiel pour dire, mais voilà, ça marche comme ça, ça a une organisation, une histoire, un fonctionnement, une logique, est-ce que, en amputant cette dimension-là, c'est pas pratiquement hérétique, c'est pas une erreur de la laisser à l'interprétation de l'usager tel quel?
Voilà. Non, mais bon, il y a le mot sujet, mais là c'est peut-être le mot qui est mal choisi, si ça induit les lecteurs en erreur, il faudrait mettre peut-être le support, je ne sais pas. Avant c'est matière, bien sûr, c'est clair. Mais c'est le mot-clé, je ne sais pas, pour qu'ils voient que... Non, moi, dans mon esprit, ça doit être le plus transparent possible, c'est-à-dire que normalement, au moins, alors il y a la possibilité de navigation qu'on va voir, mais au moins quand la... Évidemment, il faut que les utilisateurs comprennent ce que c'est qu'un mot-clé, ça. Parce que, bon, mais ça, c'est pas propre à Rameau, c'est du langage documentaire. Est-ce que le langage documentaire, ça a quelque chose ? Après, il y a deuxième question, est-ce que Rameau est un langage documentaire ? Mais, évidemment, l'idée, c'était quand même... Alors, évidemment, je pense que sujet, c'est un sujet d'étude, oui, c'est un problème là, de vocabulaire. Il faudrait qu'on comprenne que ça permet de rechercher les documents à partir du sujet du document lui-même. Voilà. Auteur et titre, évidemment, auteur-titre, ça se passe immédiatement. Mais ce serait dommage quand même de. Moi, je trouve de renoncer à cette. Ça voudrait dire, alors que l'informatique, c'est quasiment une régression. Je passerai une anecdote personnelle, mais moi, j'étais. Quand j'étais lycéen, je suis d'un milieu modeste, et pas de. Pas de chez moi, tout ça. Mais je suis à la bibliothèque municipale, à Brest. Premier étage, section études, un jour. Je ne sais pas trop comment entrer, justement, l'initiation. Mais on m'a dit, bon, il y a un catalogue, là, vous cherchez par fiche, vous le trouverez par sujet. Mais c'est... Et, en naviguant, j'ai trouvé quand même mon bien, j'ai fini par comprendre, j'ai sans doute loupé des tas de choses, mais j'ai pas eu besoin de passer des formations. C'est très, très curieux qu'aujourd'hui, donc... des choses qui étaient simples, finalement, assez intuitives. Je vous avoue que, alors, et je ne suis pas le seul, enfin, si. Je n'ai pas un souvenir d'avoir été. Si j'avais eu un problème d'introduction dans le monté à l'étage sur études, ça ne va pas de soi, même lycéen, ça c'est sûr. Mais une fois devant le fichier, je n'ai pas eu trop de difficultés à me demander comment ça marchait. Voilà, maintenant on a l'impression que les choses sont extrêmement complexes. Normalement, le minimum de rameau, le minimum, parce que finalement, ce serait qu'on tape un mot et on a une réponse. Alors, effectivement, il faut comprendre la réponse à la réponse, c'est une des références de l'immigration, etc. Donc, moi, ça m'embête un peu. Parce qu'il y a peut-être une partie, quand même, des jeunes qui comprennent, non?
Oui, je t'en reçois la parole de soi, la
suite de lui.
Je pense qu'on va aller sur terme après, sauf que c'est un anachronique, on va...
Et puis l'étudiant, oui, puis il y a aussi ça, on dit rameau, mais à la limite, là, on pourrait marquer, il pourrait y avoir marqué simplement, je crois que la table de matière, ils sont obligés de mettre rameau, c'est une notion pour les professionnels, que l'utilisateur sache pas que ça s'appelle rameau, c'est pas... pas un problème, c'est un outil, c'est comme si, voilà, c'est un outil, quoi. C'est, il y a ce mot-là, c'est acronyme, mais en revanche, il faut que le lecteur sache que c'est en fait des mots matières, quoi. Voilà, c'est ça les motivages qu'il y a derrière. Voilà. Mais à lui, de rameau, entre nous, c'est intéressant de savoir, mais on n'a pas besoin de mettre, je préfère catégorie matière au sujet, enfin bon, quelque chose qui indique ce que c'est, là. Derrière, c'est l'affaire de cuisine interne, si tu veux dire, la profession. Ça, je crois que c'est important. Parce que, voilà. Puis, j'ai une dernière chose à propos des étudiants, mais je pensais que quand même. Non, parce que je réfléchissais à ce que vous avez dit. Mais il y a quand même aussi. On dit les étudiants, il y a aussi les étudiants. Il y a l'étudiant qui arrive, après, il y a l'étudiant. Alors, peut-être que l'étudiant qui arrive, l'étudiant qui commence une maîtrise, peut-être déjà, il commence à. Il n'y a pas de. Voilà, l'initiation matière, il y a quand même aussi, c'est une initiation, donc, s'il y en a qui passent à côté, il y en a peut-être d'autres qui peuvent prendre.
Je crois qu'il y avait une question.
Oui,
le langage de documentation, elle fait seulement pour avoir une certaine cohérence à propos de la syntaxe. Je voulais écouter un peu ce que vous pensez sur ça. Comment on pourrait faire face à ce type de choses?
Bien sûr, la syntaxe, oui, parce que j'imagine que vous avez également un système dérivé des SSH. C'est pratiquement les Espagnols aussi, tout le monde y est, donc, sauf les Allemands, qui ont leur propre système avec WD, qui est très bien. Mais bon.
Parce que je pense que c'est un autre langage, donc il a besoin d'une syntaxe trop précise.
Oui, mais enfin bon, la même position, là, son mot, c'est la syntaxe existe. Bon, ce qu'il me semble, c'est pas qu'il y ait une syntaxe qui pose problème, c'est qu'elle est complexe. C'est qu'elle est en partie arbitraire. Moi, je regarde quand on dit, par exemple, on fait ethnologie, sur plus subdivision géographique, on va faire ethnologie France, pour le gigabon, et donc, ethnologie. Bon. En revanche, si c'est la langue, alors on va faire langue, gabon, langue. Pourquoi dans un cas, c'est langue, pourquoi de... C'est pas logique parce que c'est des usages, je pense, des règles. Voilà, bon, alors c'est vrai que les indexeurs, quand ils voient ça, ça fait perdre beaucoup de temps. C'est un problème aussi de temps de catalogage, de formation. Les guides rameaux, c'est 500 pages, donc voilà. Ceci dit, c'est comme ça, donc on le garde. Et je dis pas que c'est inutile, je trouve que c'est trop compliqué. Voilà, c'est pas. Ça fait que je ne la mets pas vraiment en cause, mais je trouve que c'est trop compliqué. Si j'étais seul à trouver, donc, pas de problème, mais il y a une opinion assez générale là-dessus, je suppose.
Moi, je voulais apporter encore de l'eau au moulin, au contraire des éditeurs de SIGV, puisque APSIS notamment, enfin GFI en l'occurrence, va désormais, en intégrant les notices rameaux qui reviennent du SUDOC, les déconstruire totalement et les intégrer uniquement par des secteurs. Donc la syntaxe disparaît totalement.
Mais pas les termes exclus.
bah, les termes exclus, je pense que c'est encore un autre problème pour...
Mais dans ce cas-là, sans termes exclus, un nouvel documentaire, c'est possible.
Oui, non, mais tout à fait. Et on les retrait à la main, pour l'instant. On retrait les liens à la main. Les équipes sont mobilisées pour tout recréer à la main depuis des années au niveau grammaire. Enfin, pour l'instant, nous, la syntaxe, a priori, la seule solution qu'on nous propose, c'est de la faire disparaître totalement.
Ça pose quand même des problèmes, mais bon. Oui.
Je propose peut-être d'arrêter les questions, on va peut-être faire une petite pause pour qu'on puisse faire baisser la température de la salle.